L'Épître aux Hébreux ne porte aucun nom d'auteur. Elle ne fournit pas non plus d'indication explicite quant au destinataire. Le contenu de la lettre confirme cependant qu'elle s'adressait à un groupe de judéo-chrétiens. Elle fut rédigée sans doute dans les années 65 à 68 de notre ère. L'auteur semble s'adresser à une assemblée de chrétiens de naissance et d'éducation juive d'un certain niveau intellectuel et convertis de longue date, mais qui, ayant subi la persécution, n'ont pas progressé dans leur foi. Ils sont restés au niveau d'enfants spirituels. Ils sont découragés et très tentés, semble-t-il, de retourner au judaïsme. Ils ont perdu leurs ailes premiers pour Christ. Ils sont tentés d'abandonner leur espérance en lui. Alors, l'auteur leur adresse cette lettre d'encouragement et de réconfort. « Frères, leur dit-il, je vous prie de faire bon accueil à ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit en peu de mots. » Le but donc de cette épître est de soutenir la foi de chrétiens en train de sombrer dans le doute. Pour y parvenir, l'auteur met en évidence la valeur infinie de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Il compare et oppose la nouvelle alliance, dont Christ est le médiateur, au système de l'ancienne alliance, fondée sur les prêtres et les sacrifices. Jésus, lui, est non seulement infiniment supérieur, mais il est l'accomplissement même de tout ce système. Il est le prêtre parfait, offrant le sacrifice parfait pour un salut parfait. Christ étant le médiateur d'une meilleure alliance, l'auteur souligne, dès les premières paroles, sa supériorité absolue sur tout autre médiateur. En Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé aux hommes. Autrefois, dit l'auteur, Dieu a parlé par les prophètes, mais maintenant il a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel aussi il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte même de sa personne, qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, élevé au-dessus de tous les anges. Les anges, dans la pensée juive, tenaient un rôle très important comme médiateurs de la révélation de Dieu. L'auteur, alors, s'empresse de démontrer la prééminence de Christ sur eux. Il le fait par des citations prophétiques tirées de l'Ancien Testament, où Christ apparaît en sa qualité de Fils de Dieu. Comme tel, il est l'objet de l'adoration des anges. Il est le souverain immuable d'un royaume éternel de justice. Il est le créateur de toutes choses et le vainqueur de tous les ennemis de Dieu. Jamais, conclut l'auteur, Dieu n'a assigné un tel rang à un ange. Au contraire, ceux-ci, ils sont les serviteurs de Dieu, des esprits envoyés par lui pour exercer un ministère en faveur des hommes héritiers du salut. C'est pourquoi, dit-il, nous ne devons pas négliger un si grand salut, de peur d'être entraîné à notre perte. Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur lui-même, a été confirmé par ses témoins, Dieu appuyant leur témoignage par divers miracles et par les dons du Saint-Esprit. L'auteur aborde alors un sujet qui avait toujours été une véritable pierre d'achoppement pour les Juifs, l'humiliation du Messie. Alors il démontre que l'abaissement du Fils de Dieu était nécessaire. Il a été fait pour un peu de temps, explique-t-il, inférieur aux anges. Mais ce Jésus, nous le voyons maintenant, à cause de la mort qu'il a soufferte, couronné de gloire et d'honneur. Car Dieu, dans sa grâce, a voulu qu'il goûte la mort pour le salut des hommes. C'est par ce moyen qu'il amène, en tant que l'auteur et le chef de leur salut, un grand nombre de fils à la gloire. Ceux-ci, sanctifiés par lui, deviennent fils du même Père. C'est pourquoi Christ n'a pas honte de les appeler ses frères. Pour cela, il devait partager leur nature humaine, afin de pouvoir anéantir par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ce faisant, il a délivré ceux qui en étaient les esclaves et qui vivaient toute leur vie dans la crainte de la mort. Il a fallu donc qu'il soit rendu semblable à ses frères, afin de leur porter secours auprès de Dieu en tant que grand prêtre compatissant et fidèle, pour expier les péchés du peuple. Et comme il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous en reparlerons demain.